Alors, je vous explique. Autant on a vu la dernière fois la structure du CDR, comprendre ce qui se passe. La fête de Pessah, en réalité, on n'a pas besoin de tout ça. D'accord ? C'est une fête tellement belle, tellement familiale, qu'on laisse se dérouler les choses et tout se passe bien. Et bon, année après année, on a envie de comprendre ce qu'on fait. Va à droite, va à gauche, lève, tu descends le plateau, le vert, le ci, le ça. Donc c'est pour cette raison que la dernière fois, on a essayé de donner une structure. Ceux qui n'étaient pas au chiour, je vous conseille d'écouter l'audio. C'est très important pour savoir qu'est-ce qui se passe, dans quel ordre on fait ce qu'on fait. D'accord ? Donc, il y a 15 parties, d'accord ? C'est un déroulé. Et si les Chachamim l'ont fait comme ça, c'est qu'il y a un processus, il y a une progression dans le soir de Pessah pour aboutir à un résultat. D'accord ? À part la fête familiale, à part que c'est sympa, à part que ça rappelle tout ce que vous voulez, mais il y a un processus de libération qui se fait par ces 15 étapes. Donc c'est important de les comprendre. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce que je voulais qu'on fasse aujourd'hui, dans la dernière fois, avec quelque chose de plus global. Aujourd'hui, je voulais qu'on voit juste le Maggid, c'est-à-dire la Haggadah en elle-même. Pas la Matzah, le Maror, tout ça, c'est géré. Mais le Maggid, la Haggadah, si vous êtes intéressé à lire et à traduire, c'est un peu touffu. Ça va partout, c'est-à-dire il y a des versets, il y a les quatre enfants, il y a les quatre questions, et qui a priori ne sont pas forcément liées. Là, il y a le Dayenu, il y a des récits. Et ça a l'air un peu bric et broc, d'accord ? Ceux qui se sont intéressés. Alors, bien sûr, on peut lire juste la Haggadah, etc. Mais en vérité, dès qu'on essaye de comprendre, de voir qu'est-ce qu'on fait, où on va, on ne comprend pas bien le prolongement de tous ces textes. Donc, c'était dans cette idée-là que je vous ai proposé ça. Alors, vous prenez la Haggadah, d'accord ? Et au début de Maggid, on commence, donc chacun se débrouille dans sa Haggadah. Donc, Zekadesh, Ocha, Kaapas, Yachat, tout ça, c'est vu. Ok ? Donc, là où c'est marqué Maggid. Donc, Maggid, dans toutes les Haggadot, ça commence avec Alachmania. Ok ? Alors, non, ça c'est dans une ligne, tout ça, c'est autre chose. Maggid, c'est le récit de la sortie d'Égypte. Ok ? Donc, c'est là qu'on commence. Or, en fait, on ne commence pas par ça, parce qu'on commence par deux chapitres intéressants. Un, c'est le Halach Ma'anya, et deux, c'est le Manishtana. Donc, quel rapport ça a avec le Maggid ? D'accord ? Le Maggid commence véritablement, et vous avez dans la feuille, vous suivez en même temps avec la Haggadah et la feuille pour comprendre. Le Maggid se décompose en trois parties. Vous avez une introduction, le récit qui est véritablement le Maggid. D'accord ? C'est dans la feuille. Et enfin, une conclusion. Et c'est là-dedans qu'on va mettre tous les chapitres qu'on va retrouver. D'accord ? Alors, là pour l'instant, le Maggid véritable, et je vous ai mis Maggid 1 et Maggid 2 dans le récit, il y a deux approches du véritable récit, on va les voir. C'est Avadim et Metechila, on le verra après. Par contre, quand on commence par Halach Ma'anya, et puis après Manishtana. Alors pourquoi ? La première chose, c'est que Halach Ma'anya, qu'est-ce qu'on dit ? On dit c'est le pain de misère qu'on mangeait nos ancêtres, mais on ne raconte pas la sortie d'Égypte. D'accord ? Et on a dit tout celui qui a faim qui vienne. Pourquoi ? Parce qu'en début de Maggid, d'accord, on c'est l'habitude d'inviter les pauvres, d'inviter les gens autour de sa table, et c'est avec eux qu'on va partager ce récit. En particulier les pauvres. Pourquoi ? Parce que les pauvres, c'est eux qui sont les plus intéressés à savoir qu'ils vont sortir aussi. Et qu'on leur dit, venez, on va raconter quelque chose d'intéressant. Toi qui es dans la misère, toi qui es dans la souffrance, toi qui es dans l'obscurité, sache qu'on était, et je vais te raconter comment on en est sorti. Donc c'est une introduction. On leur dit, venez vite, c'est important pour vous. D'accord ? Pour moi aussi, parce qu'on doit avoir des pauvres à sa table ou des invités, c'est une grande mitzvah. Mais l'introduction au Maggid, d'accord ? C'est à qui je vais m'adresser ? À ceux qui ont rien. Pour leur dire, vous n'avez rien, nous aussi on n'avait rien, on en est sorti. Ça c'est la première introduction, Halach Ma'anya. Donc je ne vais pas traduire, d'accord, parce que c'est plus un travail de structure, de comprendre ce qu'on fait, qu'un travail de traduction. Vous avez les traductions, et si on veut véritablement descendre dans les mots, je vous ai déjà dit, c'est long. Ce qu'on va faire aujourd'hui, je pense, c'est très important. Moi, ça m'a toujours intéressé de comprendre, et j'ai essayé de vous décrire ce que j'ai pu comprendre. La première introduction, c'est à l'Armania. On invite les pauvres, c'est pour cette raison que c'est en araméen, parce qu'en araméen, c'est la langue de l'époque, en vérité, on pourrait le faire en français. D'accord. Alors sur chaque chose, sur chaque paragraphe, il y a des centaines de questions. La première des questions sur l'Armania, c'est que c'est un peu tard pour inviter les gens. C'était à la synagogue qu'il fallait le lire. Effectivement, il y en a qui le disaient à la synagogue. Mais ça, c'est pas notre sujet maintenant. La deuxième, c'est Manishtana. Alors, Manishtana, oui, qu'est-ce que ça fait dans le Maguide? C'est les questions de l'enfant. C'est les questions de l'enfant qui comprend rien. D'accord? Eh bien, ces questions sont l'introduction au Maguide. C'est-à-dire que le Maguide ne peut être un Maguide que s'il répond à un questionnement. C'est ça qu'on veut dire en introduction. La deuxième introduction, après avoir dit à qui on s'adresse, la deuxième chose, c'est comment on s'adresse. On doit s'adresser pour répondre à des questions. D'accord? Et c'est ça l'idée du Manishtana. Alors, le Manishtana, c'est un Manishtana qui a été proposé. Mais c'est n'importe quel autre Manishtana. Tout ce qu'on pourra faire pour susciter les questions des invités, des enfants et de soi-même, d'accord? C'est à ce moment-là qu'il faut le faire. Pourquoi? Parce que le récit n'aura d'intérêt que s'il répond à un questionnement. Si tu es là à dire aux gens nanana, 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 et que tu leur expliques pas le modernisme du soir du CDR, eh ben, à part la fête familiale, ça n'a pas d'intérêt. D'accord? Donc voilà pourquoi Alachmania et Manishtana n'ont rien à voir. C'est l'introduction. D'accord? C'est la mise en condition. On commence véritablement avec Avadim. Alors, vous avez vu, donc on est dans le récit, c'est le centre. Le centre, c'est ça. Vous avez vu que dans la feuille, je vous ai marqué récit 1 et 2. D'accord? Pourquoi j'ai dit récit 1 et 2? Ça, c'est basé sur la Gemara. La Gemara a dit, qu'est-ce que c'est que raconter la sortie d'Égypte? La Gemara a dit, c'est quoi raconter la sortie d'Égypte? C'est dire, nous étions esclaves, Dieu nous a protégés, nous en sommes sortis, et c'est fini. Et on peut arrêter le CDR en un quart d'heure, puisqu'il y a plein de fourrioritures. Mais le centre du CDR, dit la Gemara, c'est la position de Shmuel, c'est ça. Ce petit paragraphe, vous avez Avadim, je le traduis à toute vitesse, nous étions esclaves pour Paro, Vayotinu Hachem, et Hachem nous a sortis, Biyat Chazaka, et si on n'était pas sortis, on serait toujours là-bas, et voilà pourquoi il faut raconter. Et ça suffit, la Gemara dit c'est bon, il n'y a pas besoin de monter de midi à 14h. Par contre, il y a un deuxième avis, qui est l'opinion de Rav, qui dit non, la sortie d'Égypte s'intègre dans une histoire. Et ça, il faut aller deux pages plus loin, à un passage qui s'appelle Mitechila. D'accord? Après, on va voir entre les deux. Vous sautez deux pages. Donc, dans ces deux pages, après, vous avez Maase, Rabbi Eliezer, Amar Rabbi Lazar Ben Azaria. Après, vous avez les quatre enfants, etc. Ok? Et après, vous avez Mitechila. D'accord? Mais je vais revenir dans puisque je vous ai mis les paragraphes qui sont entre les deux. Vous avez Maaseh Rabbi Eliezer, Amar Rabbi Lazar et Kenegad Arba Banim. D'accord? Ce sont des passages secondaires. D'accord? Si c'est pas clair ce que je vous dis, vous me dites. Et ensuite, on arrive à Mitechila. C'est quoi Mitechila? On va l'expliquer. C'est intégrer la sortie d'Égypte dans notre histoire. Montrer que la sortie d'Égypte, ce n'est qu'un maillon dans toute notre histoire qui remonte depuis le père d'Abraham, Abraham, Yitzhak, Jacob, la descente en Égypte, etc., etc., et la suite. Donc, c'est pour cette raison que c'est une discussion entre deux grands raves de la Gemara, Rav et Shmuel. Un, il dit non, il suffit de raconter l'épisode. L'autre, il dit, mais pas du tout, ça s'intègre, ça correspond à quelque chose. Pourquoi on était en Égypte? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on faisait en Égypte? C'est pas tout de dire que, si tu veux comprendre l'enchaînement de la sortie d'Égypte, il faut remonter très très haut. Donc, les compositeurs de la Haggadah, ils ont dit, on va mettre les deux formules. La formule courte, d'accord? Nous étions esclaves, on est sortis, et c'est fini. C'est ce qu'il fallait raconter. Et la formule longue, où on remonte depuis Abraham. D'accord? Et avec ça, vous avez le corps du Maguide. Ok? Donc on reprend maintenant récit 1. Donc on a vu les deux introductions. Vous avez Avadim. Donc Avadim, je vous ai dit, vous lirez les traductions, on dit simplement, en trois lignes, nous étions esclaves, d'accord? Et Dieu nous a sortis avec la main puissante. Et si c'était pas lui, on serait encore en esclavage. Donc l'idée de si c'était pas lui, c'est pour dire qu'on est encore redevable, parce que sinon on serait pas des hommes libres, on serait pas des hommes éclairés. Et après on dit la dernière phrase, v'chol amarbe. Donc c'est une mitzvah de raconter ça, comme on a étudié dans la halakhot, c'est une mitzvah de raconter le miracle qu'on a eu, et c'est une mitzvah de la Torah, et une obligation le soir de Pessah. V'chol amarbe les saper bitzia mitzrayim marezé meshubar. Tout celui qui multiplie, qui développe, eh bien, il est louable. Donc, c'est la fin de ce paragraphe. Ok? En pour imager cette fin de paragraphe qui dit que il faut développer, eh bien, les compositeurs de la Haggadah ont mis trois petits sous-paragraphes qui sont simplement la manière d'imager comment on doit raconter. Donc vous avez un premier paragraphe, Maasé, et vous voyez que ce sont en fait des sous-chapitres de Avadim. C'est ça qu'il faut comprendre. Avadim, c'est le point central 1. Metehila, c'est le point central 2. Et après, s'articulent des sous-paragraphes. Ok. Alors le premier sous-paragraphe, Maasé Berabbi Eliezer. Oui. C'est quoi cette histoire-là? On te dit, oui, il y avait des rabbins, rabbins X, A, B, C, qui étaient assis, qui ont raconté. Ils ont raconté toute la nuit jusqu'à ce que leurs élèves viennent. Et il leur dit, ça y est, c'est le moment. Ça nous montre quoi? Qu'il n'y a pas de limite. Nous, on t'a donné une version courte à Vadim, mais effectivement, la mitzvah s'est augmentée. Voilà la preuve, il y a des grands rabbins, d'accord, qui se sont mis à raconter. Et ils ont raconté simplement un récit. C'est pas, ils n'ont pas fait de la Gemara. Ils ont raconté le récit de la sortie d'Égypte. Ça, c'est annexe 1. Annexe 2, oui, c'est quoi l'annexe 2? C'est la fameuse histoire de Rabbi Lazar ben Azaria. Qu'est-ce qu'elle fait, cette annexe 2? Vous connaissez tous ce que dit Rabbi Lazar ben Azaria. Il dit, voilà, j'ai 70 ans, et je suis jamais arrivé à prouver qu'on devait parler de la sortie d'Égypte la nuit, jusqu'à ce qu'on me dise, Kolimechaïcha, bon, ça c'est le texte que vous connaissez. Qu'est-ce que ça m'intéresse, là? C'est qu'en réalité, cette annexe 2, elle nous montre une grande différence entre le soir de Pessah et tous les autres soirs de l'année. Tous les autres soirs de l'année, on doit parler de la sortie d'Égypte, mais on doit juste la rappeler, la Zechira, Tizkeru. Alors que le soir de Pessah, on parle du Sipour. Et donc ça te recadre les choses en te disant, attention, c'est pas comme d'habitude où tu fais le schéma et tu parles en deux secondes de la sortie d'Égypte. Là, on doit développer. Et donc c'est une mitzvah différente des autres mitzvot. Et donc le soir de Pessah, on a la mitzvah de Zechira qu'on fait quand on lit le schéma. Et puis après, on a une nouvelle mitzvah qui est spécifique au soir de Pessah et qui sera la mitzvah de Sipour. Et la mitzvah de Sipour, elle demande d'être développée. Ce qu'on a vu dans l'annexe 1, où les rabbins ils sont restés toute la nuit, jusqu'au petit matin. D'accord? Voilà, un récit. Alors, quelle différence il y a entre un appel et un récit? Alors, il y a plusieurs notions différentes. La première, c'est que c'est développé. La deuxième, c'est que dans le récit, comme on l'a dit en introduction, c'est un récit qui doit répondre à des questions, qui doit susciter la question, qui doit susciter les interrogations, et qui doit se faire dans un échange. Donc ça, c'est les grandes différences de l'annexe 2, ok, de Amar Rabbi Lazar. Et l'annexe 3, c'est Kenegad Baruch HaMakom Baruchu. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette annexe 3? Elle nous parle des quatre enfants, d'accord? Le Chacham, voilà ce qu'il dit, voilà ce que tu réponds. Le Racha, voilà ce qu'il dit, voilà ce qu'il répond. Pourquoi c'est une annexe 3? Parce qu'elle nous ramène quelque chose de nouveau. C'est que le récit, c'est un récit variable. C'est pas un récit figé. Tu dois l'adapter à ton auditeur. Si tu as un petit enfant, tu dois lui parler comme un petit enfant. Si tu as un intello, tu dois lui parler comme un intello. Tu as un racham, si tu as un rachat en face de toi, tu dois avoir les moyens d'expliquer au rachat sans qu'il quitte la table. Et donc ça, c'est la troisième introduction. Donc si vous, annexe. Donc si on veut se résumer, en trois lignes, on a fait le récit. Nous étions esclaves, on a souffert, Dieu nous a sortis. C'est fini. Là-dessus, on te dit, attention. Premièrement, c'est vrai que je t'ai fait un texte court, mais comme tu le vois dans les rabbins, on peut rester toute la nuit. C'est pas exhaustif. Tu peux développer. Deuxièmement, c'est que, attention, on n'est pas dans la Zechira, le souvenir, on est dans le Sipour. Et si on est dans le Sipour, il faut développer. Et troisièmement, la manière de développer. Tu dois développer de façon adaptée à ton auditeur. Et c'est pour ça qu'il y a les quatre enfants. Ok? Donc, c'est clair ça? Et là, on a fini le sort de Pessah, théoriquement. Vous voyez, on a fini la première partie, qui est la partie la plus rapide. Ok? Et donc, c'est important parce que c'est bien de se rappeler, on se mélange toujours entre le Manishtana, entre les Arba Banim, entre ci et ça, on ne sait pas ce que chacun fait. Alors, en réalité, c'est juste des illustrations du premier chapitre qui s'appelle Condensé de la Haggadah. C'est clair pour tout le monde? Très bien. Maintenant, on entame la deuxième partie, qui s'appelle Mitehila, le grand 2. D'accord? Sauf que dans les Haggadot, c'est jamais indiqué qu'on change de chapitre, qu'on change de structure, etc. Il faut le savoir. Alors, qu'est-ce que c'est Mitehila? Mitehila, c'est une autre manière de raconter l'histoire de Pessah. C'est une manière qui nous fait remonter aux arcanes de notre histoire. Et pas seulement qu'on remonte à Abraham, mais on remonte au père d'Abraham. Et on dit de façon paradoxale, nos ancêtres étaient idolâtres. Qui nos ancêtres? Moi, je ne connais pas, moi. Si, mon ami. Parce qu'Abraham, c'est pas... il n'est pas né de... Comme ça. Il avait un père qui n'était pas religieux, mais il est sorti Abraham. Donc, qui que tu sois, tu peux sortir de ce carcan éducatif. Tu peux avoir un père qui n'est pas religieux, des parents, une éducation pas religieuse, et tu peux en sortir. Donc, vous voyez qu'en fait, c'est ce qu'on est en train de faire. Quand on a dit cette deuxième présentation de la sortie d'Égypte, une présentation beaucoup plus large, on remonte au début de l'histoire, et on dit, voilà, il y avait Terah, qui est un pauvre type. D'accord? Mais, comme on l'avait déjà vu, ceux qui se rappellent de ce vieux chiour, c'est Terah qui a initié le départ en Israël, et qui s'est arrêté au milieu. Et c'est Abraham qui a continué avec l'Erlecha, etc. Donc Terah, il n'est pas pour rien, à part qu'il est le géniteur d'Abraham, mais il lui a aussi donné des idées, Terah, à son fils. Abraham n'a pas eu des idées comme ça de religion. Donc on s'intègre dans une histoire, même si ce n'est pas une histoire reluisante, on s'intègre là-dedans. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on raconte dans ce grand 2? On dit, voilà, au début nos ancêtres étaient idolâtres, Dieu nous a rapprochés de son service, etc. Et au milieu, vous avez Vaikar et Avichen et Avraham, etc. J'ai pris votre père. Ce sont des versets qui remontent l'histoire. Et une fois qu'on a parlé d'Avraham, vous avez un paragraphe qui est Baruch Shomer Avtachato. Donc, puisque je vous rappelle, pourquoi il faut remonter à Avraham? Et ça, c'est important. Et vous voyez que ce deuxième paragraphe qui développe, il est vital. Pourquoi on est allé en Égypte, en fait?
À cause de la famine.
Mais pourquoi on a été puni d'aller en Égypte?
Il avait été une première fois, Abraham, en Égypte.
Mais finalement, pourquoi le peuple juif est parti en Égypte? Qu'est-ce qui a fait que le peuple juif a pris cette grande claque de partir pendant 210 ans en Égypte? Pourquoi?
C'est pas pour la famine.
Quoi? Oui, mais pourquoi Dieu, il a initié ça? Pourquoi ça nous est tombé dessus?
C'est pas pour réparer la faute qu'il y a eu avec Joseph?
Non. C'est une des parties, mais une des raisons qui est marquée explicitement dans la Torah, c'est parce que Avraham Avinu, il a manqué de Emouna. Quand Hachem, il lui a dit, « Ah, je vais te donner une descendance et je vais te donner un pays », Avraham, il a dit, « Mais qui me dit que ça se réalisera ?» Il dit, « Oula, l'ancêtre du peuple juif, il manque de confiance. » Ça a besoin d'un peu de remise à niveau. Hachem, à ce moment, il a dit, ta descendance sera esclave en Égypte pendant de nombreuses années et je les sortirai de là-bas avec de nombreuses richesses. Donc, en réalité, remonter à Abraham, c'est remonter à la raison de l'esclavage en Égypte. C'est vrai que, factuellement, c'était la famine, c'était les frères de Yosef, etc. Mais historiquement, c'est un manque de Emouna d'Abraham. Et donc, on en revient à quelque chose de très important, que ce deuxième paragraphe, il nous montre que toute l'histoire de la sortie d'Égypte, de l'esclavage et de la sortie d'Égypte, c'est récupérer la Emouna qui a manqué à notre ancêtre. Donc nous aussi, le soir de Pessah, ce qu'on doit travailler et mettre en relief, c'est la Emouna que malgré la difficulté, Hachem nous sortira de là. D'accord? Et donc c'est ça, ça suffit pas de raconter la sortie d'Égypte en soi-même, c'est rien. La sortie d'Égypte, elle doit être un ferment de Emouna. Parce qu'en même temps, ça va nous aider à traverser les épreuves de l'exil, et en même temps, ça va réparer la faute d'Abraham Avinu. D'accord? Donc voilà pourquoi c'est Rav qui a dit ça, que ça suffit pas de se focaliser sur l'Égypte, il faut remonter bien plus haut pour comprendre pourquoi, le comment et qu'est-ce qu'on cherche dans la sortie d'Égypte. Et au travers de ça, qu'est-ce qu'on cherche dans la soirée du Seder? D'accord? Travailler sur la Emouna. Et la Emouna, c'est la confiance que même si je suis dans l'Azus, Hachem, il peut m'en sortir. D'accord? Donc, et après, vous avez ce fameux paragraphe de Baruch Shomer Avtachato avec le fameux Veishe Amda. Qu'est-ce qu'on dit dans Baruch Shomer Avtachato? On dit que la promesse, béni soit celui qui conserve sa promesse. Qu'Hachem, il a fait une punition à Abraham, mais il lui a fait une promesse. Qu'après l'esclavage, ils s'en sortiraient. Et c'est là où on dit, c'est pas tout de rappeler la faute d'Abraham et de rappeler la punition, mais il faut aussi se rappeler qu'Hachem, il a promis quelque chose et qu'il l'a réalisé. C'est ce qu'on dit, Baruch Shomer Avtachato l'Israël. Béni celui qui a gardé sa promesse qu'il avait fait à Avraham Avinu, Shakadajuro, etc. Et vous lirez les traductions. Et après on dit, Ve'ish Amda. Et c'est ça qui s'est tenu là voté nous, c'est là où on prend le verre, d'accord? Et on dit Ve'ish Amda. Qu'est-ce qu'on dit par là? Qu'on dit que, je traduis, c'est important, Ve'ish Amda, c'est cette promesse-là, chez Amda qui s'est maintenue là voté nous pour nos pères, chez Lo'echad Bilvat, c'est pas un seul qui s'est levé à Madalène ou le Khalotène pour nous détruire. C'est pas une seule fois. Ne pense pas que l'histoire de Pessah, c'est une histoire unique avec Paro. Et là, chez Bechol Dorvador, dans chaque génération, des Paro, on en a eu. On a eu des Aman, on a eu des ci, on a eu des ça. Toutes les générations ont connu leur Paro, sous une forme différente, et l'Inquisition, et le pogrom, et la guerre, etc. Et Akadosh Baruch Hu Matzilu Miyadam, et Akadosh Baruch Hu nous a toujours sauvés. D'accord? Donc en fait, ce paragraphe-là, qui est une parenthèse à l'histoire d'Abraham, ça nous montre l'objectif. L'objectif, c'est de travailler la Emouna et de savoir que notre histoire est une histoire répétitive avec des ennemis et qu'on s'en est toujours sorti avec des bosses et des bleus, mais on s'en est toujours sorti, ce qui n'est pas le cas d'autres nations qui ont disparu. On est bon ? Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a Tse Ulmad. D'accord, vous êtes bon? Tse Ulmad, c'est quoi cette histoire-là? C'est qu'on montre que Lavan, donc qui était le beau-père de Yaakov, il a aussi voulu faire du mal. Et encore pire, parce que Paro, c'était uniquement sur les hommes, mais Lavan, il a voulu assimiler le peuple juif et nous détruire totalement. Bon, un des premiers ennemis. L'histoire de Lavan, c'est une histoire complexe, mais simplement, on reprend qu'après Abraham, qui a fait cette erreur, qui nous a causé l'esclavage d'Égypte, eh bien, on a eu d'autres ennemis, comme Lavan, et à la suite de ça, Yaakov, avec ses 12 enfants, il s'est exilé en Égypte, et on nous raconte la suite de l'histoire. Vayered Mitzrayma, d'accord? Alors, oui. Je vous explique. À partir de là, vous êtes à Vayered Mitzrayma, à Nousalpi, à Dibourg.
Non.
Où vous êtes? Non, ça on a fini ça. Oui, c'est les quatre enfants. Non, non.
C'est
Olmad.
C'est juste après, c'est pas grave, juste après.
Voilà. Après Ve'ish Amda, tout le monde est bon dans sa Agada? Très bien. On a vu Ve'ish Amda, on lève le verre et on dit on remercie Hachem de sa promesse. On a Tse Ulmad, où on parle de Lavan qui a voulu nous faire du mal. Et ensuite on a Vayered Mitzrayma. Je vous explique. Dans la Torah, dans Dvarim, vous avez un texte qui s'appelle les Bikurim. Les Bikurim, c'est les prémices qu'on devait amener sur les fruits d'Israël. On devait les monter à Yerushalayim pour monter les prémices à Jérusalem. Quand on montait les prémices des fruits à Jérusalem, eh bien on devait dire une prière, qui est une prière de reconnaissance pour Hachem, pour le bienfait qu'il nous a donné. Ce texte-là, qui est le texte des prémices, il reprend lui-même notre histoire. Et c'est ce texte-là, et en général on ne le sait pas, qui va être développé et analysé dans la Haggadah. D'accord? Donc vous l'avez, c'est Deutéronome 26.5, vous l'avez là. Et ça commence par Vayered Mitzrayma. D'accord? Ça s'appelle, c'est le vous l'avez, c'est marqué en bas, de Deutéronome 26.5 là. Vous voyez? En bas des Haggadot, c'est marqué.
Ah oui.
Ok? Donc si vous voulez, vous pourrez le lire. Ça s'appelle Odat Bikurim, c'est le remerciement des Bikurim. Et quand la Torah nous dit qu'est-ce qu'on doit dire à Hachem quand on amène les Bikurim, d'accord? Donc on remercie Hachem sur la terre d'Israël. Eh bien la Torah elle-même, elle nous fait remonter jusqu'à l'histoire de Lavan qui a fait fuir Yaakov avec ses enfants, et il y a eu la famine, la guerre entre les enfants, et la descente en Égypte. Donc c'est-à-dire que la Torah elle-même, elle nous montre qu'on doit remonter beaucoup plus loin pour comprendre l'histoire. Et c'est ce texte-là des Bikurim qui va être expliqué. Donc on dit Vayered Mitzrayma, etc. Donc je vous le passe. Et dans ce texte-là, vous avez chaque mot va être analysé et va être développé. vous avez Vayareu, Aotanu Amitrim, Vayanu, Vaitin Mavoda Kasha. Ça, c'est un texte des Bikurim. Vous me suivez? Parce que c'est ce texte-là, c'est ce que je dis, que même les Bikurim, tu ne dois pas dire merci pour ça. Tu dois remonter bien avant. C'est pas maintenant, c'est jusqu'à mon enfance. Pour arriver maintenant, dis pas merci mon père que tu m'as organisé mon mariage. Non, tu m'as fait grandir, que tu m'as fait ci, que maintenant j'arrive là. Et donc c'est ce qu'on dit dans ce texte-là. Donc, à partir de Tseoulmad, et vous pouvez tourner les pages, d'accord? Vous avez Vayariotanu, Vanitsak, Vayotsi Enu, etc. Tout ça, Beyat Chazaka, tout ça c'est le texte, c'est l'analyse du texte. Et c'est pour cette raison que à chaque fois, le Baal Agada, il prend chaque mot de ce texte des Bikurim et il le développe. Okay? Et nous, on le reprend pour nous, pour l'intégrer dans la sortie d'Égypte. D'accord? Jusque Vayotienu, vous êtes à Vayotienu?
Oui.
D'accord? C'est la fin. C'est la fin du texte des Bikurim. Oui? Donc, si on veut résumer, dans le Maggid 2, d'accord? Le Maggid 1, c'était la forme la plus concise. Le Maggid 2, c'est la forme développée où on s'intègre dans notre histoire, on remonte depuis Abraham. L'exemple de développement de notre histoire, la Haggadah, elle a choisi de montrer ça à partir des Bikurim. Parce que là-bas aussi, la Torah, elle te dit, ça suffit pas de remercier Dieu parce qu'il t'a donné des dattes et des figues. Il faut remonter beaucoup plus haut, pourquoi il t'a donné Israël, que tu étais sorti en Égypte, etc., tout ce qui t'est arrivé, pour arriver maintenant à l'aisance dans laquelle tu es. Et donc moi, ce texte, il m'intéresse, parce que finalement, on intègre, ça nous montre comment on doit intégrer la sortie d'Égypte dans notre histoire. D'accord? Donc c'était le Maggid 2, ce qu'on appelait le Maggid 2. Ok? Alors, il y a beaucoup de sous-textes, parce qu'on fait une analyse des mots, mais ce qui nous intéresse, c'est la dernière partie, où on dit, voyez, Hashem Mitzrayim, etc. Beyat Chazaka, ou Bizroa Netuya. D'accord? Vous l'aviez avant. Vayotienu. Oui? Vayotienu Hashem Mitzrayim, Beyat Chazaka, ou Bizroa Netuya, bon ragadol, boto moftim. Ça, ce Vayotienu, le premier Vayotienu. D'accord? Ce verset-là, c'est un long verset qui est la conclusion des Bikurim. Donc celui-là qu'il faut connaître. Tout le monde là? Vayotienu Adonai Mimitzrayim, Beyat Chazaka, ou Bizroa Netuya, ou Moragadol, boto moftim. Combien vous avez de termes? Beyat Chazaka, Bizroa Netuya, Bemora Agadol, Beotot Moftim. Vous avez 5 termes. Vous êtes bon là? Tous ces termes, ils vont être expliqués dans la suite. Donc on explique d'abord Voyotienu, après on explique Beyat Chazaka, après on explique dans le même texte le paragraphe Beyat Chazaka, Bizroa Netuya, Bemora Agadol, Beotot Moftim. Et c'est un paragraphe qui explique chacun des termes. Et après, vous avez une autre version qui s'appelle Davar Acher, c'est ce que vous avez dans le résumé. Ici, vous prenez le résumé. On est au récit, paragraphe 2. On a vu Terar, on a vu Avraham, avec la Avtacha, c'est la promesse de Vishamda. Après, on a dit Lavan, différentes paroles, c'est ce qu'on a vu. Après, on a dit Tselulmad, c'est la Oda de Bikurim, remerciement des prémices. Là, vous êtes bon? Et après, il y a une analyse de texte. Et après, on a les 5 derniers termes qui sont expliqués de deux manières. La deuxième version, d'accord, c'est la manière dont il nous a sorti, c'est Davar Acher. Vous êtes bon là? Autre explication, autre parole. Tu y es Pierre? Où tu es?
Ayotzi et nous, le deuxième.
Voilà, alors continue.
Après Dan.
Biatra Zaka, tu tournes encore Davar Acher. C'est bon d'avoir Acher, donc d'avoir Acher, vous le soulignez, parce que celui-là, c'est celui qui va nous emmener dans les 10 plaies. D'accord? Parce que qu'est-ce qu'on dit dans d'avoir Acher? On a dit que d'avoir Acher, c'est autre explication, autre version. Et puisqu'on a dit, il y a 5 expressions de la force d'Hachem. Yatraga, Bizroa Netuya. Alors, le Balagada, il dit, Yatraga, ça fait 2. Yatraga, Zroa Netuya, ça fait 2. Shtaim. Moragadol, ça fait 2. Otot, c'est un pluriel, ça fait 2. Moftim, Sabloria, ça fait 2. 5 termes doubles, ça fait 10. C'est les 10 plaies. Et l'Ouesser Makot, ce sont les 10 plaies. Et donc, on voit que cette nouvelle explication du dernier verset des Bikurim, d'accord, pour vous situer, eh bien, c'est celle-là qui va nous embrancher sur les 10 plaies. Ok ? Puisqu'on a 5 termes de la puissance d'Hachem, qui sont tous au pluriel, Yad, Chazaka, Zroa, Netouya, et les autres c'est des pluriels, parce que Otot c'est un pluriel, Moftim c'est un pluriel, donc le Balagadi ça fait 10, et l'Ouesser Makot. Et donc on te les cite, Dan, Svardea, qui est normal.
Pendant qu'on lit, on peut, entre les chapitres, dire un petit mot d'explication oui,
ah mais on doit
il faut, on, voilà, on pas, doit on coupe pas, le,
la pas du tout, il y a, on, doit, on peut parler, on doit parler. Alors, il ne faut pas non plus que ça se dilue, parce que sinon on perd le... Il faut trouver le juste milieu. On ne doit pas faire des drachotes. Des drachotes, ça n'a pas d'intérêt, des grandes drachotes. Il faut faire de... Savoir en vérité... c'est pour ça que c'est intéressant ce qu'on fait maintenant. On devrait se préparer, savoir qui je vais avoir à ma table, qu'est-ce que je veux faire passer comme message, qu'est-ce que je veux leur dire. Il faut se préparer, parce que le soir du Seder, après...
Si
on... Hein? Oui.
En général,
le repas arrive.
Ouais. Non, il faut, si on a effectivement des gens qui sont intéressés par le repas, il faut pouvoir dire en 5 minutes l'essentiel. On n'est pas obligé de passer 2 heures. Les gens qui disent je suis resté jusqu'à 14h du matin, tant mieux. Si tu as du public pour rester jusqu'à 14h du matin, mais personne n'oblige à 14h du matin. Tu peux rester jusqu'à 14h du matin après le repas quand tu auras fini. Il faut pas, il n'y a pas d'obligation de rester à 14h du matin et empêcher les gens de manger. Donc ici, vous voyez qu'on a conclu, on est arrivé sur les 10 plaies. D'accord? Et on les cite. Jusque-là, on a tous l'habitude des 10 plaies. À partir de là, d'accord? À partir de ces 10 plaies, eh bien, on va faire une sorte de feu d'artifice sur les 10 plaies. C'est-à-dire que, d'abord, vous avez les 10 plaies, on les regroupe en 3 parties. Détar, Hadash, Be'ahal, ça c'est Rabbi Houda. Vous avez Rabbi aussi à Galilée. Donc chacun va mettre sa petite remarque sur les 10 plaies. Rabbi Houda, il dit, oui, on les regroupe en 3 groupes. Alors, tout ça, vous trouverez des explications dans les Agadot, pourquoi les 3 groupes et tout ça, c'est pas le but. D'accord? Moi, je veux qu'on comprenne ce qui se passe. Rabbi Yossi à Galilée, il dit, tu sais quoi? Minaïn, d'où tu sais, à ta omer, chez la cour à Mitraïm et Mitraïm, et Sermakot, qui a eu 10 plaies en Égypte, vers la Yam, mais à la mer, la cour à Mishimakot, il y avait 50 plaies. Donc lui, il dit, je monte. C'est pas seulement 10, comme a dit Rabbi Houda, c'est 60. 10 à l'Égypte, et 50 à la mer, égale 60. Bon, ça c'est Rabbi Yossi à Galilée. Le deuxième, c'est Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il dit, Minaïn, chez Kolmaka ou Maka, d'où tu sais que chaque plaie, Aïtach al-Arba Makot, chaque plaie des 10 était subdivisée en 4. C'est-à-dire 10 fois 4, total 40. Le deuxième, c'est Rabia, le troisième Rabbi Akiva, il dit, Minaïn, d'où tu sais, chez Kolmaka ou Maka, que chaque plaie, Aïtach al-Khamesh Makot, elle était subdivisée en 5. Ça fait, 10 fois 5, ça fait 50. Donc finalement, c'est ce que vous avez dans le résumé. Un qui dit 10 plaies. Rabbi Houda qui les divise en 3, 3, 4. Rabbi Yossi à Galilée qui dit,
10
plus 50 à la mer, Rabbi Lézer 10 fois 4, chaque plaie c'était 4, et Rabbi Akiva 10 fois 5. Et avec ça, vous avez complété le récit. On arrive aux plaies. On a terminé les plaies. Vous me suivez?
Oui, oui.
Très bien. Voilà. Et là, en réalité, et là, quelque part, on a fini le récit. D'accord? Le récit court ou le récit long, on arrive, on a fini les 10 plaies, donc maintenant c'est la sortie. D'accord? Là-dessus, alors, bon, je ne vous ai pas fait parce que il y a une autre manière, enfin un peu historique, parce que ce qui est aussi intéressant, c'était quoi le texte de la Haggadah que disaient nos ancêtres au temple? C'était sûr que ce n'était pas aussi long. Il y a beaucoup de paragraphes, d'accord? Par exemple, le Dayenu, c'est quelque chose de moderne. Dans le Rambam, Maïmonide, il n'a pas le Dayenu dans son texte. Donc, il y a quelque chose de plus récent. Qu'est-ce qu'on fait dans le Dayenu? Dans le Dayenu, on prend un peu de largesse par rapport au récit. Et en fait, on essaye d'analyser, puisque là, on a fini. D'accord? On a fini le récit. Puisqu'on est arrivé au 10 plaies. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans le Dayenu? C'est que l'objectif de la Haggadah, l'objectif du récit, c'est d'augmenter la Emouna et d'être reconnaissant vis-à-vis d'Hachem. D'accord? Comme on l'a dit plein de fois, la reconnaissance, c'est par une analyse de ce qu'on t'a donné. Oui? Ça ne suffit pas d'être reconnaissant, merci du gâteau, non. Merci du cadeau, non. C'est l'attention, le paquet que tu as cherché à, etc. Eh bien, c'est ce qu'on fait. dans le Dayenu, il y a 15 parties dans le Dayenu, il y a 15 Dayenu, qui reprennent d'ailleurs les 15 paragraphes de la structure du Seder, où en fait, on dit, tu sais quoi, si tu m'avais offert un cadeau sans le papier, c'était déjà bien. Et si tu m'avais pas mis le papier et sans le ruban, c'était aussi bien. Et si. C'est-à-dire que, bon, vous le lirez, vous le connaissez, puisqu'on le lit chaque année. C'est-à-dire qu'on essaye d'analyser, et c'est un exercice d'analyse extraordinaire dans notre relation avec notre conjoint, avec nos enfants, avec nos amis. D'accord ? Le Dayenu, c'est un exercice extraordinaire. De prendre l'habitude de pas dire merci Géry pour ce bon repas. Non mais mon ami, il faut faire les courses, il faut éplucher, il faut laver, il faut ci, il faut ça. Alors, la femme aussi, c'est pareil. Merci Géry de m'avoir. Non, et pour ça, mais j'ai travaillé, et je me suis fatigué, et j'ai géré les impôts, j'ai géré tout ça. Donc chacun, alors bien sûr que ça doit être implicite, mais en réalité, dans tout relationnel, même un relationnel entre nous maintenant, où prendre conscience que les choses ne sont pas gratuites, que les choses, elles se subdivisent, et arriver à reconnaître, arriver à voir, dans le bien qu'on te fait, il y a ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, et la reconnaissance en est que plus grande. Ça, c'est l'exercice du Dayenu, mais vous voyez que on n'est pas dans le récit, on est dans la prise de conscience des bontés qu'il y a eu dans la sortie d'Égypte. Jusque-là, vous êtes bon ? Et donc après, à la Hakam avec Ama, on te dit à plus forte raison que non seulement il t'a fait ça, mais plus ça, il te les a fait les 15. D'accord ? Le papier cadeau, le ruban, le ciel et ça, tu les as toutes eues. Ok ? Très bien. Et là maintenant, c'est la fin. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que on est maintenant dans le troisième chapitre qui s'appelle la conclusion. D'accord ? Puisqu'on a terminé le récit avec les plaies. Et on entame, il y avait l'introduction avec les deux parties, les deux formes du récit, et la conclusion. Qu'est-ce qu'il y a dans la conclusion ? La conclusion, c'est les 15 remerciements du Dayenu. C'est plus du récit. Alors, quelque part, c'est vrai que ça fait aussi partie, parce qu'on a décortiqué la sortie d'Égypte. Mais disons qu'on est là plus dans le remerciement. Et après, on a un mini-paragraphe qui s'appelle Rabban Gamliel. D'accord ? Qu'est-ce qu'il dit Rabban Gamliel ? Rabban Gamliel, en vérité, ça n'a rien à voir. On ne sait pas ce qu'il fait là. Sauf que, Rabban Gamliel, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, mes amis, c'est bien joli le récit. Mais si c'est juste raconter des histoires pour raconter l'histoire du peuple juif, ça ne m'intéresse pas, véritablement. Ça ne m'intéresse que si ça aboutit à une mitzvah. Et Rabban Gamliel a dit, tout celui qui n'a pas dit les mitzvot, c'est-à-dire les obligations qu'on a suite à la sortie d'Égypte, il n'a rien compris à la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que, c'est vrai, je t'ai aidé et je t'ai sorti de la boue, mais je te demande de faire les mitzvot de Pessah. C'est Pessah, Matzah ou Maror, ce sont des mitzvot. D'accord ? Des mitzvot qu'on a l'obligation de faire, manger de la matzah, ce qu'on va faire, le Maror et le Korban Pessah à l'époque où il y avait. Donc en réalité, c'est une forme de conclusion qui nous permet de sortir du narratif et d'être dans le réel, d'être dans l'action. C'est pour ça qu'il vous dit Rabban Gamliel, c'est pour ça que j'ai appelé ça la conclusion. Aya Omer, il disait, « Kolmi shelo amar shlosha dvarim », tout celui qui n'a pas dit ces trois choses-là, « Lo yatsai de chovato », il n'est pas quitte de son obligation. Quelle obligation ? L'obligation de quoi ? Quelle obligation ? Alors, oui, « Kolmi », c'est intéressant, « Kolmi shelo amar », tout celui qui n'a pas dit ces trois choses, il n'est pas quitte de son obligation. Mais de quelle obligation ? S'il parle de l'obligation de ces mitzvot, ça ne suffit pas de les dire, il faut les faire. « Pessah matzah maror », c'est des mitzvot. Donc de quoi il parle ? Il dit que celui qui n'a pas montré que la sortie d'Égypte, elle aboutit à la réalisation des mitzvot, il n'a pas compris c'était quoi le récit. Ce n'est pas un récit historique, on n'est pas là en train de raconter l'histoire et les légendes du peuple juif. On est là pour aboutir à une mitzvah. Et donc, faire le récit sans faire prendre conscience aux auditeurs qu'il y a un engagement qui doit se faire derrière, ben, tu t'es pas acquitté de ton récit. Autant on a dit au début que le récit doit être à géométrie variable en fonction de l'enfant, le ram, le tib, le tam, etc. Mais autant tu dois te fixer un objectif. Qu'est-ce que je veux faire passer ? C'est vrai qu'il y a la émouna. Mais la émouna, en tout cas, dis-moi, j'ai la émouna, d'accord ? Mais la émouna, si elle ne te conduit pas à la pratique des mitzvot, eh bien tu t'es pas acquitté de l'obligation du récit. Le récit, il doit avoir un objectif de faire prendre conscience. Regardez. Dieu, il a été bon avec nous. Il nous a fait sortir d'Égypte. Mais pourquoi ? Pour nous donner la Torah, pour donner les mitzvot. Donc, il y a un but dans notre histoire. Le but dans notre histoire, c'est celui-là. Alors ici, c'est Pesar Matomo, on ne va pas faire Shabbat et tout ça. Mais en réalité, c'est ça que ça veut dire. Vous comprenez? Donc voilà pourquoi la conclusion, c'est le Dayenu, c'est une forme de remerciement après l'histoire. Ensuite, vous avez Rabban Gamliel, c'est l'engagement qu'on doit avoir. Et après, à la fin, donc il a dit Pessar, Matzah, Maror, il développe le Pessar, voilà ce que je t'explique, la Matzah et le Maror. Et après, eh bien, vous avez la conclusion, la troisième conclusion de la conclusion, c'est le Lefirar, c'est quoi? C'est pour cela, pour toutes ces raisons-là, qu'on doit louer Dieu, etc. Et vous avez le demi-Hallel. Alléluia, Betet Israël, Borat Hashem Gal Israël. Parce que vous savez que le Hallel est coupé en deux. Il y a une partie du Hallel, une moitié du Hallel qui est avant le repas, et une partie du Hallel qui est après le repas. La première moitié du Hallel, c'est celle qu'on lit en conclusion du récit. Ok? Et donc voilà, voilà pourquoi, si vous avez bien suivi, vous avez maintenant une structure de la Haggadah, d'accord, qui vous donne une sorte de colonne vertébrale du récit. C'est pas très compliqué en fait. Et ça nous permet de pas se perdre, de savoir où est-ce qu'on circule dans cette Haggadah. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de reprendre votre propre Haggadah en mettant des numéros, introduction, etc. Et après, analyser morceau après morceau, essayer d'analyser morceau après morceau en disant voilà, ce morceau, où est-ce qu'il s'articule? À quoi il répond? À quelle problématique il répond? Et après, vous pouvez les développer, les traduire, les expliquer, tout ce que vous voulez. Mais on comprend ce qu'on veut. C'est surtout comprendre qu'il y a deux manières de raconter la Haggadah. La manière courte et la manière intégrée. Et la manière intégrée, elle est importante et elle se termine par le Dayenu, l'objectif des mitzvot et le Hallel. C'est clair pour tout le monde? Voilà, c'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Parce que moi, ça fait des années aussi que je me perds dans la Haggadah. Je me demande ce qu'on fait, va à droite, va à gauche. Avec ça et l'autre, vous l'avez. Ok? Alors,
dans la structure, on n'a pas suivi un cheminement plus logique. C'est-à-dire que...
Ah, la structure des 15?
Oui.
Ah, oui. En fait, cette structure-là, tout ça, moi je n'ai expliqué que la structure dans son... Pas ça, hein? Tu parles pas de ça, du cours de la dernière fois.
Oui.
Ça, c'est, il y a une structure mystique. Après, il faut étudier dans, peut-être on y arrivera. Il y a une structure mystique. Regardez, si vous prenez le premier.
Est-ce qu'on pourrait pas dire que là, pour répondre en classe, ce qu'on a envie de dire, c'est que justement, comme c'est que pour la question, ça permet de poser une question, parce que le but de la chose, c'est la question, parce qu'on voit bien que le questionnement, les 4 questions, nous permettent le récit vient nous répondre aux questions. Donc là, ce que tu viens de faire, c'est le but même, j'ai l'impression, hein, c'est le sentiment que j'ai, c'est que c'est le but même, c'est de poser la question sur notre vie, sur quel est notre que veut dire le sens de la liberté, de l'espace. C'est pour ça que je pense comme le plateau qui est complètement désordonné, qui est là pour on l'enlève, on le remet, ben là je pense que c'est complètement désordonné, et c'est pas du tout dans quelque chose de classique. Ce CDR, il est justement pas classique pour susciter. Et là, je trouve que ta question, elle est vraiment centrale. C'est qu'en tout cas, moi, tu vois, je vais l'utiliser. Cette structure permet de poser la question. Cette structure complètement désordonnée, à mon avis,
qui nous paraît désordonnée, mais après, au-delà de sa question, qui est juste, et attends, je marque aussi, mais d'accord, mais on va pas mettre des structures désordonnées juste pour poser des questions. C'est qu'en réalité, il y a une structure ordonnée, d'accord, mais si on veut véritablement faire la structure ordonnée, si vous reprenez la première partie, c'est ce qu'on avait expliqué ce Shabbat, vous voyez que dans la colonne 1, qui est la colonne mise de la Torah, vous avez au milieu la galette, en haut vous avez deux paroles, et en bas deux paroles. Vous avez Kadesh, c'est le Kiddush, c'est de la parole. Magid, c'est le récit, ce qu'on a étudié aujourd'hui. Donc vous voyez que tout ce qu'on a étudié aujourd'hui, c'est la paragraphe 5. Après, vous avez le paragraphe 8, qui est la Matzah. Et après, 13 et 14, c'est Barer et Hallel. Et Nirsa, vous rappelez qu'on avait dit que c'est rien du tout. C'est une sorte de validation. Mais en face de chacun, du 1, du 5, du 13 et du 14, vous avez un petit vers. D'accord? On avait expliqué la dernière fois pourquoi c'est un petit vers. Eh bien, mystiquement, le Harizal, il dit que chacun de ces 4 vers, il correspond à une des 4 lettres du nom de Dieu. Le Yud, le E, le Vav et le E. Que le Kadesh, c'est la Chorma. Que le Magid, c'est la Bina. Le Kadesh, c'est la Chorma. Pourquoi? Parce que pour aller un petit peu dans ton sens, si tu veux, et pour vous donner l'envie d'approfondir, la Chorma, c'est l'étincelle, c'est ce qui va éclairer les choses. Or le Kadesh, dans le Kadesh, il y a tout, c'est la sanctification du jour. Par le fait qu'Hachem il a sanctifié le jour, il a donné un éclairage sur toute la soirée. Et dans ce Kadesh-là, ça correspond au Yud. Parce que le Yud, c'est la Chochma, et la Chochma, c'est l'éclair de génie. Dans le Magid, ça correspond au He. Le He, c'est la Bina. La Bina, c'est la déduction, le développement, ce qui correspond tout à fait au Magid. Le Magid, c'est le développement du Kadesh. Voilà pourquoi ça correspond à la lettre He. Barer, c'est le Birkat Amazon. Ça correspond au Vav. Le Vav, c'est la lettre qui relie. C'est le Vav de conjonction. Qui relie le deux choses. Qui relie, puisque le Vav, la forme du Vav, elle relie le haut et le bas. Et c'est exactement l'idée du Barer, où on bénit Dieu sur notre alimentation. Que la force du peuple juif, c'est de ne pas séparer le matériel et le spirituel. Avant de manger, on fait une bracha. Après manger, on fait une bracha. Chaque chose de la vie, on fait une bracha. Chaque chose matérielle, on fait une bracha. Ça correspond à la lettre Vav. Et enfin, le He, le dernier He, ça correspond à Halel. D'accord ? Pourquoi ? Ça correspond à la Malchut, à la royauté divine qu'on attend au développement du Mashiach. Et c'est la dernière Sphira qu'on appelle Malchut. Donc, 1, c'est Kadesh, c'est Chochma, le Yud. 5, c'est Bina, le He. 13, c'est le Vav, du nom de Dieu, c'est le Chibour, le lien. Et le 14, c'est le Halel, c'est la Malchut, c'est le He final. Donc tout ça pour te dire qu'il y a, et il y a une structure mystique profonde qui traverse ça, et que les Chachamim, c'est vrai qu'ils ont fait une sorte de bric-à-brac pour dérouter un peu les passants, d'accord ? Et que si véritablement on veut, il ne faut pas passer, il faut s'arrêter, et à ce moment-là, on comprend le sens de chaque chose. Ok ? Voilà.